Lecture pour vous. Des romans roses à écouter dans le noir. Une émission conçue et réalisée par Fernand Bailhac. Sur CFM, tous les mardis à 22h, avec rediffusion le dimanche à 15h. Amis auditeurs, lecteurs assidus ou occasionnels, retrouvez avec Lecture pour vous le plaisir de vous faire raconter une belle histoire, comme quand vous étiez petit avant de vous endormir. Résumé des chapitres précédents. Olia, l'Ukrainienne prisonnière du réseau d'Oleg, a réussi à se faire un ami au club de natation de Nice. Un certain Serge Bruand. Elle partage avec lui des instants de liberté et leur amitié se transforme en un amour impossible. Olia réussit à avouer à Serge les conditions de sa tragédie et Serge décide de la libérer. Chapitre 7. Préparatifs de guerre. La journée du lendemain se passa dans la bonne humeur à vivre des plongées sous-marines inoubliables. Katia, la Suédoise, paraissait relativement fatiguée, mais au moins, elle n'avait pas eu froid toute la nuit. Olia aussi semblait changée, mais comme illuminée d'une énergie intérieure. Les yeux de Serge abritaient parfois des orages et des violences qu'on ne lui connaissait pas. Il paraissait absent et irrité à la fois. Toute l'équipe rentra à Nice en se promettant, dans une grande connivence, de ne pas faire trop état au club des péripéties ultramarines. Les filles aussi croyaient que Olia était mariée et qu'il s'agissait d'une aventure extra-conjugale qu'il valait mieux taire. Évidemment, on réclamait une nouvelle expédition au plus tôt, avec davantage de moniteurs et moins de filles. Serge et Olia s'étaient entendus pour ne rien changer de leur rapport apparent au club. Il fallait continuer à donner le change à l'organisation tant que leur plan n'était pas arrêté. D'ailleurs, ni Olia ni Serge n'avaient trouvé un début de solution dans les 15 jours qui suivirent. Cela démarra brutalement, à l'occasion d'une précision que Olia prononça devant Serge. « Il faut que j'aille demain porter l'argent à la BMCI. »« Tu as parlé de la BMCI ? Mais ça me dit quelque chose, la BMCI. C'est bien la banque du boulevard de Riquier. »« Je me souviens, j'ai participé à son chantier il y a 7 ans. Mais je la connais par cœur, cette banque. »« Ah bon ? Et alors ? Es-tu complètement sûr que ton passeport est caché dans un coffre de cette banque ?» C'est une des filles qui me l'a affirmé. Moi, je sais que c'est la banque par où l'argent est blanchi. Alors, pourquoi pas ? Effectivement, l'organisation ne peut pas multiplier les complicités. Mais tu ne sais pas dans quel coffre exactement. Donc, il faut tous les ouvrir pour le trouver. Mais c'est impossible, tu sais bien. Écoute, il faut que je réfléchisse et surtout que je retrouve le dossier technique de ce chantier. Mais je ne veux pas, d'ailleurs. Tu ne pourrais pas tout seul cambrioler cette banque. Tu le sais très bien, et tu te ferais prendre immédiatement si tu essayais. Oh, mais tu m'aideras un peu, va. Écoute, je ne veux pas que tu passes ta vie en prison pour me libérer. Je te veux libre comme moi, sinon je n'accepterai pas. Nous nous reverrons la semaine prochaine. Je réfléchis d'ici là. Il y avait bien 2 problèmes distincts. Le cambriolage d'une part et sa mise définitive à l'écart de l'enquête d'autre part. Se constituer un alibi était aussi important que le casse lui-même. Un autre dilemme tenait à la mise au point des étapes ultérieures. Le départ de Olia, les retrouvailles de sa fille et de sa mère et leur fuite commune à l'étranger, dans un pays suffisamment exotique pour que l'organisation y perde leurs traces. Lui les rejoindrait plus tard. Dès que Olia disposerait de son passeport, il faudrait qu'elle aille se cacher immédiatement dans un endroit où Tatiana et sa mère seraient elles-mêmes prêtes à la rejoindre. À Paris, peut-être, chez son copain de promotion, Albert. Albert et Nicole. Ils avaient une chouette maison de banlieue à Asnières, où les trois femmes pourraient se réfugier tranquillement en attendant leur visa. Albert ne pourrait pas lui refuser ça. Il fallait prendre l'organisation de vitesse. Et c'est à Kiev que ce serait le plus difficile. Il fallait donc, dans l'ordre, que sa mère et sa fille demandent un visa de séjour touristique en France pour une durée compatible avec l'exécution du CAS. Il fallait qu'il leur envoie les billets, open, aller-retour Kiev-Paris, sur la même période, et qu'elle puisse rejoindre Olia. Pour partir ensuite, où ? Serge consulta son atlas. L'Afrique noire, trop difficile de s'y fondre durablement. L'Asie, oui, trop compliqué à y vivre le reste d'une vie. L'Amérique du Nord, oui, extradition, trop facile, entrée beaucoup trop contrôlée. Donc l'Amérique du Sud, peut-être l'Argentine, fallait voir. Et l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, ça ne le branchait pas tellement, même si ça paraissait aisé de s'y faire admettre. Ou alors tout bêtement l'Amérique centrale, ce bon vieux refuge de tous les malfrats en cavale. Fallait analyser les pays. Il se renseigna auprès des différents consulats de Marseille, histoire de faire un long voyage d'agrément sous les tropiques. Il bouquina toutes les brochures et études sur le Guatemala, sur le Nicaragua, sur le Honduras. Oui, tiens, le Honduras. Le Belize aussi aurait été très bien, mais il semblait minuscule sur la carte. Difficile d'y passer inaperçu. Le Salvador était trop agité. Il finit par rêver du Costa Rica, un vrai paradis sur terre dont on n'entendait presque pas parler à la télé et qui disposait d'une bonne stabilité politique. La corruption ne devait pas y être moindre que dans les autres pays de la région, ce qui serait assez utile le cas échéant. Pas de convention d'extradition très active, possibilité de fuite vers les autres pays de la zone, des possibilités aussi d'installation dans le pays et de naturalisation. Il suffisait d'être assez riche, évidemment. À ce propos, l'opération devait coûter pas mal d'argent. Il fallait le matériel nécessaire au cambriolage, les billets d'avion, le séjour de Olia à Paris et l'installation de tout le monde au Costa Rica. Mais le plus coûteux et le plus idiot serait de se ruiner au casino pour se fabriquer une motivation acceptable au hold-up. Olia l'aiderait, bien sûr, mais ça dépasserait vite leur capacité financière à tous les deux. Mais au fond qu'il était bête. Il se préparait à cambrioler une banque et il se demandait où il trouverait l'argent. Au fond, il suffisait de jouer la mise initiale. Il y aurait bien de quoi se refaire en siphonnant dans les coffres. Il n'y avait qu'à prélever le strict nécessaire après tout. CFM, lecture pour vous, diffusée les mardis à 22h, avec rediffusion le dimanche à 15h. Le samedi suivant, Serge et Olia se retrouvèrent au club. Après une brève trompette dans le bassin, destinée à donner le change aux observatrices, ils s'éclipsèrent et se retrouvèrent dans un des salons privés du club pour faire le point de leur projet. Ils avaient juste 2 heures devant eux. Ce fut suffisant à Serge pour expliquer les grandes lignes et les quelques détails de son plan d'action. Mais il ne voulait pas lui donner les modalités techniques exactes du cambriolage de la banque, car il ne souhaitait pas qu'elle dispose de trop de renseignements au cas où elle serait arrêtée. Elle accepta tout de suite de s'engager dans cette aventure difficile et risquée et lui proposa de l'aider financièrement. À ce propos, elle s'amusa beaucoup de son honnêteté et de ses scrupules à piller les coffres de cette banque. Il fallait au contraire risquer le coup au moment où il serait sûr qu'il trouverait dans le coffre de l'organisation au moins le montant de la recette du mois. Plus de 250 000 euros constituaient une prise de guerre qui leur permettrait de couler tous les quatre des jours heureux. Et comme ils seraient obligés de fracturer un certain nombre de coffres pour y dénicher la mallette de passeport, il faudrait bien les vider de façon à rendre plausible l'hypothèse d'un cambriolage systématique. Après tout, ceux qui mettaient l'argent dans ces coffres ne devaient pas en avoir un besoin fondamental. Serge se rendit à ses raisons, mais il comprit que le problème s'augmentait du transport, du stockage et de l'écoulement des bijoux qu'il ne manquerait pas de trouver. Pour l'argent liquide, c'était plus facile, croyait-il. Mais la grande affaire de cette rencontre fut le devenir des autres passeports, ceux des filles prisonnières du système. Olia n'osait pas aborder la question, pensant que Serge prenait déjà suffisamment de risques d'une façon invraisemblable pour ne pas y ajouter le sauvetage de ses 18 esclaves. C'était néanmoins pour elle une question morale de premier plan, et elle fut très soulagée et très heureuse de voir que Serge y avait déjà pensé. Olia, il faut que tu trouves un moyen pour transmettre leur passeport à toutes ces filles et organiser avec elles une évasion d'ensemble, simultanée et immédiate, de façon à ce que l'organisation ne focalise pas sur toi toute seule, ses recherches et ses moyens. Il faut les disperser et faire croire qu'il s'agit d'un complot général. D'un côté, tu vas augmenter tes risques en leur fournissant leur passeport. Mais de l'autre, si ça réussit, tu augmentes tes chances de les semer. Olia réfléchissait. Les deux immeubles de studio étaient constamment gardés chacun par un homme du groupe qui la connaissait. En plus, les filles n'étaient pas toutes en même temps dans les studios et des clients étaient sûrement avec elles. Enfin, Olia ignorait l'adresse de ces deux immeubles. Tout d'un coup, elle pensa à Natacha, la cuisinière, qui allait tous les jours apporter les repas lors de la relève des deux concierges. Mieux, le dimanche et le mercredi en début d'après-midi, elle rapportait le linge propre de ces dames dans des emballages individuels et emportait leurs effets sales dans de grandes panières. Mais pourrait-on compter sur elle? C'était un personnage secret qui se réfugiait dans son travail et communiquait très peu. Sur un marché, Olia n'aurait donc pas besoin de prendre des risques en allant sur place pour remettre les passeports. Serge était infiniment soulagé et séduit par cette hypothèse, mais les suites de l'opération lui échappaient, puisque ça introduisait dans leur plan 19 personnes de plus. Le risque était énorme. Mais la fuite de Olia dépendait sûrement du désordre qui allait suivre l'évasion générale. Du coup, il accepta. Olia le remercia d'un baiser fougueux. Son cœur débordait de reconnaissance et d'amour pour ce garçon qui acceptait aussi généreusement de risquer sa vie, son honneur, son métier, sa tranquillité, pour les sauver. Elle n'avait jamais imaginé une telle preuve d'amour. Même s'ils devaient tous perdre la vie dans cette aventure, elle aurait au moins vécu un amour inouï. Elle se remit à espérer revoir son enfant et sa mère, puis à rebâtir une vie nouvelle. Le sourire de Tatiane reviendrait sur son visage, qui avait dû tellement changer depuis son départ. Il faudrait les avertir sans éveiller les soupçons de l'organisation. Mais comment? Il fallait trouver à Kiev un intermédiaire qui transmettrait à sa mère les consignes écrites, l'argent et les billets d'avion. Elle Olia ne pouvait pas lui écrire directement, ni même l'appeler au téléphone. C'était trop risqué. Serge, lui, ne pouvait pas parler en ukrainien avec elle. Finalement, ce fut Serge qui dénoua le problème. Olia, est-ce que tu n'as pas un ami qui parlerait le français et qui serait assez courageux et fidèle pour transmettre à ta mère toutes les informations ? Après réflexion, Olia proposa à Serge d'appeler au téléphone une de ses amies d'enfance, en qui elle avait toute confiance et qui parlait très bien le français. Elle s'appelait Sonia Grinko. Serge se chargerait de trouver son numéro de téléphone et de tâter le terrain. Il fallait évidemment montrer patte blanche pour donner confiance à Sonia. Le souvenir d'une sortie de classe où Sonia et Olia avaient fait du canotage ensemble. La description de leur robe et le prénom de leur béguin commun devraient ouvrir des portes. Ils se quittèrent précipitamment car le temps passait très vite et Olia ne devait pas éveiller les soupçons à la villa. Sur Internet, il trouva assez facilement le numéro de téléphone de Sonia Grinko. Il l'appela un soir depuis chez lui, et après un long moment d'incertitude et de méfiance, la jeune femme lui proposa, dans un français très correct, de lui évoquer les souvenirs précis de Olia. Serge avait noté scrupuleusement les indications qui lui permettraient d'authentifier son appel. Aussi Sonia eut l'air très surprise, mais poussa plus loin la vérification, en lui demandant le nom du petit béguin en question. Serge avoua qu'il le connaissait pas, et que dans quelques jours il s'en souviendrait. À la date convenue, et fort des renseignements que lui avait communiqués Olia, Serge rappela son amie ukrainienne. Sacha, c'était bien ça, Sacha, le nom du petit garnement rouquin dont elles étaient amoureuses toutes les deux à l'époque. C'était bien loin le temps des amours enfantines. Mais pourquoi donc Olia ne l'appelait-elle pas directement ? Serge eut beaucoup de mal à la convaincre qu'elle ne pouvait pas actuellement lui parler, mais qu'il fallait lui faire confiance. C'était très important au nom de leur amitié. Olia et Serge firent un premier test de loyauté et de collaboration de Sonia. Ils lui adressèrent un petit cadeau avec quelques dollars dedans que Sonia devrait apporter à la mère d'Olia. Dans le petit cadeau pour Tatiana, Olia demandait à sa mère de bien vouloir lui écrire une lettre à l'attention de Serge Bruyan, poste restante à Nice. La réponse de la maman d'Olia ne mit que 4 jours à leur parvenir. Sonia était bienvenue, lui apportait le petit cadeau intact, et on pouvait compter sur elle. Elle s'inquiétait beaucoup de la situation de Olia. Elle demandait qu'on lui donne des nouvelles par le même canal, maintenant qu'elle savait comment communiquer avec Olia sans craindre d'être censurée. Une photo de Tatiana et de sa grand-mère accompagnait l'envoi. Olia et Serge partagèrent le bonheur d'avoir trouvé un stratagème fiable pour communiquer avec elle, et désormais, de multiples courriers, photos circulaient dans les deux sens. Serge tomba tout de suite sous le charme de la petite Tatiana, dont le sourire triste cadrait mal avec ses 9 ans et ses nattes noires. Sa grand-mère la tenait serrée et affectueuse dans les plis de son grand tablier. La photo a été prise un jour de grand soleil, dans un square sur fond de bar HLM. Elle semblait en bonne santé, mais bien isolée et vulnérable. Évidemment, Olia fondit en larmes en les voyant. Elle ne pouvait même pas garder cette photo dans ses affaires en cas de fouille à la villa. Serge devenait ainsi le dépositaire de toute cette affection et de toute cette détresse. Il était lui-même bouleversé par tant d'injustices et de malheurs accumulés. Il était plus déterminé que jamais à donner un papa à Tatiana. À chaque rencontre au club avec Olia, celle-ci lui confiait des lettres qu'il envoyait les unes derrière les autres à Kiev. Progressivement, Olia expliqua à sa mère l'extraordinaire bonheur qu'elle avait eu d'avoir rencontré Serge et toute l'affection que celui-ci leur portait sans les connaître. Elle donnait des nouvelles rassurantes et pourtant incompréhensibles sur sa situation à Nice, avec de vagues espoirs de se revoir bientôt. Effectivement, il fallait attendre que l'opération d'évasion fût suffisamment prête pour déclencher l'exode de sa mère et de sa petite fille. Sonia devait être l'intermédiaire pour effectuer les démarches d'obtention des visas touristiques pour la France, juste quand elle lui demanderait. Et de son côté, Sonia fut informée bientôt de la gravité de la situation et du rôle essentiel qu'elle serait amenée à jouer à Kiev. Elle reçut suffisamment d'argent pour faire face aux démarches préalables et à tous les frais qui ne manqueraient pas d'intervenir. Sonia se disait parfaitement solidaire de cette partie du plan et se proposait même pour accompagner la grand-mère et Tatiana jusqu'en France. Elle espérait tant retrouver Olia. Elle avait compris qu'il fallait se méfier d'organisations criminelles qui rôdaient autour d'elle et que son action n'était pas dénuée de danger pour elle aussi. Côté technique, la mise au point de l'affaire progressait bien. Serge avait retrouvé dans ses archives le dossier complet, des documents des ouvrages exécutés sur le chantier de la BMCI. Et des déplans, il se remémora toute la configuration de l'agence et se revit dans le local technique, devant les centrales de traitement d'air, à la chaufferie, au poste de contrôle et de supervision de la télésurveillance, où il avait passé de longues heures de tests et d'essais de fonctionnement. Il éprouva une immense surprise et une profonde jubilation en feuilletant le dossier de passation des consignes à la société d'exploitation et à la compagnie de sécurité. Mieux, dans le fond d'une boîte cartonnée, il trouva une petite clé à bronze à barillet cylindrique crénelé qui dormait encore, celle du portail du local technique. Un oubli sans doute. Il se mit à étudier et à apprendre par cœur toutes les procédures informatiques qui suspendaient le fonctionnement des caméras et les alarmes, et il éplucha le logiciel. Il se rappelait cette procédure des fichiers mémoire censée permettre d'exploiter sur 24 heures les événements passés dans l'agence. Sur un petit brouillon annexé, parmi tant d'autres annotations, il découvrit la commande et le code d'accès à ce fichier. Du coup, ses yeux se brouillaient devant lui. C'est comme s'il avait été guidé par le destin pour accomplir ce cambriolage. Il savait désormais comment brouiller les pistes et trouver un alibi solide pour être écarté de la liste des suspects. Mais tout cela n'était pas garanti. Car il suffisait que les codes de protection du local technique aient été changés depuis par le personnel de la société d'exploitation pour compliquer terriblement sa tâche. Mais il avait quand même sa chance. Toujours en étudiant les plans, il put vérifier l'épaisseur du mur de la salle des coffres qui le séparait du local technique. La composition du béton de ce mur aussi, et l'armature colossale de poutres IPN qui avait été chevillée dans ce mur. C'est à ces poutres qui avaient été fixées, par des boulons, le cadre métallique de l'ensemble des 36 coffres qui reposaient sur son embase au sol. On fait une série de boulons tous les 50 cm, maintenait le haut de l'ensemble bien solidement au mur. Vers le bas, le boulonnage était espacé tous les 2 mètres. Mais comment percer les coffres, en supposant qu'il arrive à pénétrer dans la salle? Les attaquer par l'arrière, là où le blindage est le plus faible. Au chalumeau, très long et très dangereux pour les passeports et les billets. L'acier n'était pas fragile comme du verre. Sauf si le fond des coffres, censé être hors de portée des cambrioleurs, était constitué d'une tôle inox relativement mince, qui ne résisterait pas à un choc violent pour peu que l'acier fût porté à une température très basse. Et il suffisait d'apporter sur place une distribution d'azote liquide pour fragiliser l'acier, au moins pendant un bon moment. Il fallait donc commencer par projeter l'ensemble des coffres-forts au sol pour qu'ils présentent leur façade arrière. Voilà, les gars, c'est une petite charge d'explosifs qui se dilaterait dans le volume créé entre cette façade arrière et les murs, suffirait à coucher l'ensemble en arrachant les boulons. Serge ne disposait évidemment pas d'explosifs. Mais il se souvint avoir observé une opération de dessouchage de vieux oliviers dans la campagne du côté de Manosque. Le paysan utilisait un explosif constitué de mélange d'engrais, du nitrate d'ammonium, destiné à l'amendement, et de fioul domestique. Un petit détonateur provoquait une explosion gigantesque qui creusait des mini-cratères arrachant toute la souche d'un seul coup. Aussi, un dimanche matin, il prit sa moto et repartit vers Manosque. Après quelques recherches, il trouva la ferme et le vieux paysan à qui il demanda de lui céder 1 kg d'engrais pour dessoucher un chêne dans son jardin. L'autre le lui fournit volontiers pour rendre service à un citadin dans l'embarras. Serge ne pouvait pas faire d'essai préalable, mais il était sûr de la formule de l'explosif et s'était fait suffisamment expliquer les quantités qui lui seraient nécessaires pour son dessouchage. Il ramena à sa villa son équipement de plongée, avec un jeu de bouteilles d'air comprimé chargé. Chez un armurier de Toulon, il acheta, en se faisant passer pour un collectionneur, une réplique d'un pistolet de poing totalement inoffensif, mais fort impressionnant. Tous ces préparatifs de guerre furent suivis par repérage minutieux des lieux, des heures d'ouverture de la banque, des habitudes du personnel et des fréquences d'intervention de la société d'exploitation. Il traîna le soir, et même au cours de la nuit, dans le passage hôtelier, en essayant de ne pas se faire remarquer dans les parages. Il établit un planning prévisionnel très serré de l'opération elle-même. Mais il n'avait aucune latitude ni aucune facilité de repli au cas où les codes d'accès seraient changés et déclencheraient l'alarme. C'était du tout ou rien. Puis il passa à la deuxième séquence de l'opération, à savoir le braquage de la station-service et sa justification. Lui, qui n'était qu'un joueur de cartes occasionnel, il se documenta sur un jeu de hasard qu'il savait être à la mode dans les cercles de jeu et les casinos de Nice, le Blackjack. Il y avait plusieurs casinos à Nice, dans la région. Aussi, lui fut-il facile, entraînant pendant quelques soirées dans un de ceux-ci, d'observer les joueurs aux tables de Blackjack. Ça jouait très gros, et visiblement, le casino était gagnant la plupart du temps. Dans les manuels qu'il consulta, on parlait de systèmes de comptage des cartes, de diverses méthodes pour miser ou se retirer suivant la valeur des cartes distribuées. Il s'entraîna un peu avec des jeux en ligne sur Internet, et au bout de 3 semaines, il avait réussi à se familiariser avec ce jeu de dupes. Lorsqu'il sentit qu'il était de force à tenir son rang à la table de Blackjack du principal casino, il décida d'y faire quelques apparitions, histoire de connaître les caissiers et les croupiers, en se faisant remarquer si possible. C'est ainsi que le roule eut les honneurs de sa visite 3 soirées de suite. Il avait décidé de jouer 2000 euros au total dans un premier temps. Il multiplia le nombre de parties en jouant de petites sommes chaque fois. Mais la chance venant au secours des néophytes, le deuxième soir, il avait réussi à gagner 4000 euros. À la 3e soirée, il réussit à les perdre brillamment en quelques tirages de cartes aventureux. Le croupier eut un petit sourire de compassion pour cet amateur qui s'imaginait peut-être avoir découvert une méthode de comptage infaillible et qui s'était fait piéger comme un gamin par le mélange des 6 jeux dans le sabot. Serge prit les autres joueurs à témoin de sa malchance et de sa déconvenue en ne se cachant pas qu'il comptait les cartes. Les autres pigeons riaient sous cape. Après avoir donné néanmoins un bon pourboire au croupier, il alla boire un verre au bar du casino avec quelques joueurs malchanceux. Et, simulant un état d'ébriété, il ne manqua pas de se faire remarquer par le personnel de surveillance en jurant en haute voix qu'il reviendrait jouer gros un de ces jours. Pendant cette même période, il fit la tournée des stations-service dans la ville de Nice et dans les environs. Il lui fallait une station, assez importante, mais pas trop cependant, pour qu'elle fût gardée par un seul employé. De plus, il fallait que cette station fût ouverte le dimanche matin, et c'était le cas de la station Les Mimosas. Il alla y faire le plein d'essence un dimanche matin à 8h30. Le gérant, un énorme bonhomme bourru, encaissa sans politesse. Serge traîna un peu dans le hall d'accueil de la station, à contempler les rayons d'huile et accessoires pour automobile, et finit par revenir au comptoir acheter des chewing-gums. Il ressortit, marcha quelques pas sur l'air, retourna au bureau avec un billet de 50 euros au prétexte de faire de la monnaie, et lorgna sur leur tiroir-caisse. Pendant tout ce temps-là, aucun client ne survint, et donc il finit par s'éloigner. Il gara la voiture dans les environs immédiats, d'où il nota la fréquentation de la clientèle de la station en ce dimanche matin. Il revint le dimanche matin suivant sur sa moto, observer et noter les passages de la clientèle. Le pic de fréquentation se situait vers les 10h30. Avant, la clientèle était rare, toutes les 10 minutes environ. Ça irait. Serge paraît bien présomptueux de vouloir cambrioler une banque à lui tout seul. Même avec les renseignements dont il dispose, ne court-il pas à l'échec? C'est ce que vous saurez en écoutant le prochain épisode de Coup Double, le nouveau roman d'Edgar Dorset, sur CFM, le mardi à 22h et le dimanche à 15h. Vous pouvez aussi réentendre cet épisode sur le site de cfmradio.fr. À la rubrique « Lecture pour vous ». Les illustrations musicales de cet épisode étaient tirées du thème des films de James Bond et du thème du film « Le Professionnel ». Johan, qui était à la mise en onde, et Fernand vous disent au revoir pour la prochaine émission de Lecture pour vous sur CFM.